Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de reprendre l'antenne aujourd'hui avec vous et bienvenue si vous nous rejoignez ici sur Bram FM, il est 13h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. À mes côtés dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry, bonjour.
Bonjour Eve.
Que sera le thème de ta chronique ?
Un film de 1981, Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer.
Et on se retrouve dans quelques instants. Pour en parler, à nos côtés dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Eve, bonjour aux auditeurs.
Tu seras avec nous en deuxième partie d'émission pour nous parler d'un événement majeur qu'organise le pays d'arrêt d'histoire.
Oui, la fête des Lumières, les Allumés du Sac.
Les Allumés du Sac. Il y a ton micro qui est vraiment très très loin.
Est-ce voilà. Que si je fais comme ça, ça sera mieux?
Alors du coup, tu vas parler des Allumés du Sac.
Exactement, et surtout le parcours, le patrimoine qu'on a à Ussac, on en avait déjà parlé, mais je redirai un petit mot sur la fête qui arrive.
Parfait, donc on se retrouve dans quelques instants, et puis à tes côtés, il y a ton stagiaire qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est sa première à la radio.
Exactement, oui c'est ça, c'est la première fois que je découvre ce milieu.
Bon, et bien bienvenue avec nous dans le studio. À 13h30, il y aura le journal régional. Et puis donc en deuxième partie, on l'a dit, Thomas sera avec nous. En première partie d'émission, on parlera du festival Le Bleu en Hiver qui commence demain. Manon Besse, chargée de communication de l'Empreinte, sera avec nous, vous l'entendrez. Et puis vers 13h50, il y aura évidemment la chronique en Limousin. Et puis à 13h55, ce sera le temps de la météo. Oui, et quelle météo, on verra encore s'il y a de la neige qui va venir cette semaine. Bref, ce sera donc à 13h55, on l'a dit. Voilà, on est en direct sur Bram FM jusqu'à 14h. Et pour bien débuter cette journée, ce mercredi, c'est donc toi Thierry qui va ouvrir le bal.
En 1981, Pierre Granier de Fer, le réalisateur du Chat et de la Veuve Coudert, délaisse les vaches sacrées du cinéma français et se tourne vers sa jeune garde pour une adaptation du roman de Jean-Marc Roberts, Affaires étrangères. Sont ainsi à l'affiche du film Gérard Lanvin, Nathalie Baye, Jean-François Balmer et Jean-Pierre Calfon. Pour cornaquer cette meute de jeunes comédiens, Michel Piccoli. Jean-Marc Roberts adapte lui-même son roman avec le concours de Christopher Franck, alors en pleine ascension. D'affaires étrangères, on passe à une étrange affaire, sans perdre un millilitre du venin qui inocule le roman, bien au contraire. Le synopsis tient à peu de choses. Après le décès du big boss d'un grand magasin parisien, type Samaritaine, le personnel attend avec angoisse la nomination de son successeur. Particulièrement l'adjoint du directeur du service publicité, qui avait peut-être l'ambition d'être créatif, mais qui passe ses journées à préparer son tiercé, faire le joli cœur avec les secrétaires et griller quelques gitanes avant d'aller faire des pokers avec ses potes jusqu'au petit matin. Notre tir au flanc, Louis Colline, partage sa vie avec Nina. Tout va bien dans son petit couple modèle des années 80. Le nouveau patron, Bertrand Mahler, est flanqué de deux acolytes, aveuglément soumises au rythme dément imposé par cet homme en quête de nouveaux défis. Leur arrivée va bouleverser la vie de Louis et Nina en faisant exploser le chiffre d'affaires de la boîte et le couple. Bertrand Mahler, c'est Michel Piccoli au sommet de l'art picolien. Cynisme, charme, charisme et autoritarisme s'exerçant sur toutes et tous. Très vite, Louis Colline est envoûté par la présence de cet homme, lui dont le père s'est tiré au Canada et qu'il n'a quasiment jamais connu.
Bon, je vais m'expliquer autrement. Pour moi, les magasins tournent mal. Le chiffre d'affaires n'est pas mauvais, je sais bien. Mais on joue petit bras ici. Je me suis donné un an pour redresser la barre. Il faut être les premiers, Louis. Les premiers. Sinon, à quoi bon ?
Pour ce glandeur professionnel, c'est la bascule dans un jeu pervers de manipulation, où la victime est consentante et brûle, impuissante, toutes les fondations d'une existence qui semblait donner toute satisfaction, et c'est très dérangeant. Les spectateurs assistent à cette lente et inexorable désintégration et comprennent la fascination de Louis Colline pour son nouveau mentor, tout en le trouvant exaspérant de le voir ignorer tous les signaux de l'inéluctable destruction de sa vie sentimentale et familiale. Il n'y a pas une goutte de sang dans Une étrange affaire, mais le film invente le concept de gore psychologique.
Je suis vraiment très, très heureux de vous connaître. Parce que Louis nous parle de vous sans arrêt. Je raconterai ça à Nina. Nina préfère ceci, Nina fait cela. Il faut que je rentre pour pas froisser Nina. Vous avez de la chance. Hein, Louis?
Bah tiens.
Par contre, ce qu'il ne m'a jamais dit, c'est ce que vous faites. Peut-être que vous ne faites rien.
Je dirige un service d'expertise à la manufacture de Sèvres.
Ah, pas possible. Non, ça c'est passionnant. Mais pourquoi tu ne l'avais jamais dit?
Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait des puzzles avec des assiettes cassées?
Imbécile. Non, la porcelaine, c'est tout un univers. Qui meurt, d'ailleurs. Parce que sans ostentation, non?
C'est une définition possible, mais superficielle.
Si Michel Piccoli compose un requin capitaliste cynique et attrayant, Gérard Lanvin lui oppose une fragile nonchalance que jamais plus le comédien n'approchera, même de loin. C'est son meilleur rôle, assurément. Tout au long du récit, le propos est sous-tendu par au mieux une homosexualité latente, au pire une misogynie à peine cachée. Pas facile de déchiffrer les attirances sexuelles de Mahler, et s'il en a d'ailleurs, mais c'est clair que la bête n'aime pas les femmes. Oui. L'extrait ne part pas.
Voilà, il faut que tu enchaînes.
D'accord, j'enchaîne.
On mettra la suite après.
D'accord, il n'y a pas de problème. La réussite du film tient pour beaucoup à ses seconds rôles. Jean-Pierre Calfon est détestable à souhait, en nervie sans scrupule. La posture méprisante de François Lingre, son personnage, séduit de façon malsaine Louis Colline. Les deux hommes finissent par lier une amitié particulière, attrapant au passage les quelques miettes d'affection laissées par Mahler, se convainquant qu'elles sont sincères. Même Jean-François Balmer, le plus humain de la bande en apparence, est cassant.
Oui, je voulais faire connaissance. Louis Colline,
Paul Bellet. On a fait connaissance.
Un mot sur la musique de Philippe Sard, très présente dans le film. À l'époque, le compositeur est le staccanoviste des bandes originales en France. On le colle à toutes les sauces, son carnet de commandes ne désemplit pas. C'est le gadget sûr que chouchoutent la plupart des réalisateurs. La même année, en 1981 donc, il signe la splendide partition de Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Pour le film de Granier de Fer, Philippe Sard imagine un tango, cette musique de séduction aux pulsions macho, collant idéalement à la chorégraphie de l'emprise mentale qu'est le film. Il enregistre la musique avec le quartetto Cédrone, le riff de César Strozio au bandoneon est diaboliquement marquant. Il y a tout un tas de bonnes raisons de voir et revoir Une étrange affaire et absolument aucune de ne pas le faire. Mais avec le recul, on peut percevoir ce film comme l'un des derniers à appliquer les recettes efficaces du cinéma français de ces années-là. Une mise en scène discrète effacée derrière le propos, un scénario au ressort psychologique voire psychanalytique et des seconds rôles de premier rang.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Désolé pour ce souci technique.
Dommage, c'était...
Bah oui.
C'était vraiment chambé la phrase. Mais bon.
Tu as choisi un titre
musical.
Attends,
j'ai une anecdote avant.
Ah bon, bah
je
alors vas-y. Bah, avec grand plaisir.
Je bouscule pas trop ton émission.
Pas du tout, non.
Voilà.
Elle est déjà bien assez bousculée.
Dans ce studio même, à cette place même où je suis assis, là,
je sais ce que
face
tu vas
à
dire.
Toi. C'est tenu il y a quelques années, j'ai oublié l'année, figure-toi. Oh. Michel Piccoli.
Sur cette chaise. À
madame.
Ta place.
À ma place.
Michel Piccoli.
Il était là, il y avait d'autres gens, il y avait Philippe Dauteville notamment. Il y avait le réalisateur Jacques Rouffiot, le réalisateur Jacques Doyon, Agnès Gamero qui organisait à l'époque ce festival, s'appelait Ciné d'été, elle avait invité ces gens-là. Et moi j'avais Piccoli en face de moi, toi.
Comment tu te sentais?
J'étais convié par Agnès Gamero. qui m'avait appelé à l'aide. Et on avait préparé une interview de Piccoli, quoi, tu vois. Et j'avais balancé un son d'une étrange affaire, justement, une phrase que j'ai pas retrouvée, là, où il dit « Sachez, Louis, que je n'ai pas l'intention de me laisser enculer par les mammouths. » Et là, c'était la première phrase et de l'émission aussi, tu vois, avant le générique. Et Piccoli était en face et tu vois la tête qu'il fait quand il sourit super méchamment, là. Il me regardait comme ça pendant que je lui parlais. Il avait son sourire de dingue. Moi, je faisais pas le fiéro. Et en fait, c'était super, quoi.
Mais attends, Piccoli, mais la vraie question, c'est allez où cette interview maintenant ?
Figure-toi que je ne l'ai jamais réécoutée.
Oh non, alors, mais tu l'as quand même.
Philippe d'Hauteville, si tu nous écoutes, retrouve-moi cette archive. J'aimerais bien la réécouter. Bah je ne l'ai jamais réécoutée.
Mais moi aussi, j'aimerais bien la réécouter.
Je sais même qu'il y a eu des photos de prise, je n'ai jamais vu une photo. Enfin,
c'est dégueulasse. J'imagine bien la scène, un peu, tu sais, comme la photo de Brel et tout, tu vois.
C'est ça, c'était ça, mais en mieux.
Ouais. Merci beaucoup pour cette anecdote. Mmh. Et puis, bah, moi, j'aimerais bien voir déjà les photos parce que là, j'ai du mal encore à te croire. Mmh. Et en plus, l'interview parce que j'ai encore plus de mal à te croire.
Je lui avais dit, pour moi, Monsieur Piccoli, votre meilleur rôle, c'est celui de Bertrand Mahler dans L'étrange affaire. Voilà. Il m'avait dit, peut-être Faillotant ou je ne sais quoi, toi. Je suis d'accord avec vous.
Bah, en même temps, il allait pas te dire.
Et sourire non. Avec 62 dents, enfin, l'horreur, quoi.
Bon, bah, super. Mais attends, comment ça s'est passé cette interview du coup ? Bien ?
Ben,
t'as assuré ?
Ouais, j'ai assuré comme une bête, malgré mes jambes qui tremblaient.
Tu flagellais un peu ?
Ouais, complètement. non, je ne suis pas du genre à me laisser intimider par le vedettariat, je n'ai rien à foutre. Et même, c'est plutôt un combat, genre, je te regarde dans les yeux, tu ne vaux pas mieux que moi. Mm. Ok ? Ça, mais... c'est un préalable. Piccoli, bah, oui. Je te jure que tu ne fais pas le fiero.
Waouh ! Ça me met l'eau à la bouche quand même, j'aimerais bien. J'ai hâte, en tout cas, d'en savoir plus. Et puis, auditeuris, promis, on remet la main là-dessus et on vous passe un extrait la prochaine fois
d'interview.
Tu as choisi un titre musical ?
J'ai choisi un morceau qui a un lien assez direct avec le sujet, comme d'habitude, mais pas si direct que ça. Enfin bref, Jean-Pierre Calfon, qui est un second rôle fabuleux dans ce film, a fait quelques pas dans une carrière musicale entre punk et chansons françaises. Un drôle de petit personnage, voilà. Une chanson de Jean-Pierre Calfon qui s'appelle « État d'âme ».
Plus d'état d'âme.
Plus d'état d'âme ?
Mmh. Okay. Et d'âme écrit comme dame. La dame.
Ok, d'accord.
Plus d'état d'âme, elle te sourit, file avec charme vers la sortie. Ça te désarme, tu la trahis, éteinte la flamme, bientôt l'oubli. Les jeux sont faits, tu prends une claque. Le cœur forfait, trop tard tu craques. C'est sans espoir, elle te l'apprend. Tu vas savoir pourquoi, comment. Tout est secret, tes faux fuyants, pauvre regret, se perdent au vent. Et à jamais, comme tes tourments. Elle se fait la valise, sans emporter de bagages. C'est le grand large qu'elle vise, quand elle te tourne la page. Tu tournes en rond dans ta rage. Espoir, elle te l'apprend. Tu vas savoir pourquoi, comment. Tout est secret, tes faux fuyants, pauvres regrets se perdent au vent. Et à jamais, comme tes tournants. Plus d'état d'âme, elle te sourit, file avec charme. Vers la sortie, ça te désarme, tu la trahis, éteinte la flamme, bientôt l'oubli. Plus d'état d'âme, plus d'état d'âme, plus d'état d'âme, plus d'état d'âme, plus d'état d'âme. Plus d'état d'âme.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Oui, vous êtes ici sur Bram FM et nous poursuivons notre émission aujourd'hui avec vous, Manon Besse, chargée de communication de l'Empreinte. Et nous allons parler du Festival du Bleu en Hiver. Bonjour Manon.
Bonjour Eve.
Vous venez pour nous parler de l'Empreinte habituellement, mais aujourd'hui ce n'est pas exactement pour le programme de la scène nationale que vous êtes là, mais pour nous parler de la 18e édition du Bleu en Hiver, un festival de jazz qui commence demain, et de son programme qui n'a pas été pensé seulement par l'Empreinte et à l'Empreinte, mais aussi avec d'autres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos partenaires, Manon Besse ?
Oui, bien sûr. Donc le Bleu en Hiver, c'est effectivement un festival qui est co-organisé donc par l'Empreinte, la scène nationale Brive Tulle, mais aussi Des Lendemains qui chantent, donc la SMAC de Tulle, le collectif de musiciens Le Maxiphone, l'association Grive la Braillarde et la FAL 19, c'est-à-dire la Ligue de l'enseignement de la Corrèze.
Et on voit dans le programme qu'on va évoquer dans quelques instants une très grande diversité de genres de jazz. Est-ce que c'est dû à votre diversité ?
Tout à fait, c'est vrai que l'historique un peu du festival, c'est ça, c'est de croiser un peu, on va dire, la couleur musicale de chacun de ces lieux-là. Donc effectivement, les Lendemains qui chantent vont complètement amener le côté un peu musique actuelle, festive, tout comme l'association Grive la Braillarde, le Maxiphone, un regard vraiment plus expert sur le jazz, la scène nationale, on va dire une couleur vraiment peut-être jazz un peu plus classique, à la fois un peu musique du monde entre guillemets, et la FAL qui va, eux, ils vont être plutôt actifs sur le côté action culturelle puisqu'on mène toujours des ateliers pendant le festival, donc avec l'IME notamment.
Et on va parler un peu de la programmation de cette 18e édition, mais avant, je vois qu'il y a un changement important par rapport à l'an dernier, un changement majeur. Le festival se concentre sur deux villes, Tulle et Brive. Pourquoi ?
Alors, on revient un peu aux fondamentaux, effectivement. Donc, 18e édition, une première semaine qui va se dérouler vraiment sur Tulle et une deuxième semaine de festival sur Brive. Donc, on va dire le berceau plutôt historique du festival pour redonner, on va dire, du peps, du dynamisme, de l'énergie, de la visibilité aussi à un festival qui peut-être s'était un peu éparpillé à un moment donné. Donc, une volonté vraiment de recentrer tout ça.
18 ans. On l'a dit, et donc pour la majorité du festival, ça va se fêter au Magic Mirror à Tulle, et c'est super.
Ouais, le Magic Mirror, on est très content de le voir, de l'avoir pour cette nouvelle édition. Donc Magic Mirror, pour rappel, c'est ce grand chapiteau en bois, très, très joli, et d'extérieur et d'intérieur, où on peut bien sûr en plus boire un verre. Et il y aura également un food truck sur place, donc on peut aussi se restaurer, et puis quand même bien sûr écouter de la musique, que ce soit les midis ou le soir. Donc vraiment centre névralgique du festival pour cette édition. Voilà. Après, pour bien sûr, suivant les groupes qu'on accueille, les configurations, quelques concerts, deux uniquement hein, au théâtre de Tulle, tout le reste sur le Magic Mirror pour la partie Tulle. Et puis après, comme je le disais, on basculera à Brive.
Oui, justement, la première partie, tout est à Tulle. Hein.
Ouais.
Et la deuxième partie, tout est à Brive.
Tout à fait. Plutôt centre névralgique sur le théâtre de Brive, mais aussi quand même en extérieur, avec toujours cette volonté quand même dans le festival de se balader un petit peu. Donc notamment au centre culturel de Brive, à la médiathèque et au conservatoire.
Alors parlons un peu de la programmation de jazz, S au pluriel et magnétique, car très attirant. La présidente du festival, Dominique Grador, annonce dans l'édito du programme qui présente plein de concerts et de rencontres, chaud, l'hiver sera chaud, et ce n'est pas de la météo.
C'est pas la météo, mais elle a raison, on va se réchauffer, on va s'ambiancer, et pas seulement dans la chaleur du Magic Mirror, puisque c'est vraiment avec toute la musique qu'on va accueillir. Tu le disais, c'est des jazz qui sont vraiment variés, donc on va avoir des choses un peu plus peut-être jazz classique comme on se l'imagine, avec quelqu'un comme la saxophoniste Géraldine Laurent et sa formation Cooking. On va avoir aussi du jazz influence un peu Maloya de La Réunion avec En Pagaille par exemple, avec aussi les Bretons comme Ndiaz, qui sont des choses très dansantes. Et puis je pense aussi bien sûr la création sauvage qu'on accueille au théâtre, qui est autour des œuvres pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, avec une relecture avec un instrument à la fois issu du trad, des formations jazz plus classiques et même de l'électronique. Et puis on a aussi quelqu'un comme Ludivine Sambour qu'on accueille avec Antiloops, un jazz à mettre dans toutes les oreilles, puisque elle est flûtiste, elle est hyper virtuose, c'est très funky, c'est très groovy, ça fait danser, on a envie de bouger. Donc ça, c'est le gros concert du samedi soir. Donc vraiment une édition chaude, effectivement.
Et on va pas avoir le temps de présenter l'ensemble du programme très éclectique hein, par ces genres. On voit des influences trad, rock, hard bop, électrocosmique, punk, world, mais aussi, avec en ouverture demain au Théâtre de Tulle, une première, une œuvre de Fred Pouget, du Maxiphone, qui invite Jean-Philippe Rameau en revisitant une pièce pour clavecin, Les Sauvages.
Voilà, jazz, tendance baroque, je dirais même orchestre un peu, nous on l'appelait multifacette, hein, puisque c'est vrai que c'est une réécriture de Fred Pouget, très, une composition très fine, hein, qu'il a fait pour un ensemble très varié d'instruments. On retrouve aussi de l'accordéon, de la vielle à roue, alors bien sûr des instruments plus classiques, clavier, sax, clarinette, bien sûr, piano, machine électronique également. Donc on va avoir vraiment une... Voilà, c'est une création qui est vraiment originale, qui est tout en finesse et qui va être, voilà, je pense, un très beau moment à découvrir et vraiment voilà, quelque chose d'original et qu'on entend peu.
Et puis vendredi, je vois que c'est Tendance Trad avec un trio auvergnat, Ramdam Fatal, et on part en réunion en compagnie de En Pagaille.
En Pagaille, collectif, vraiment groupe hyper, hyper chouette, très dansant, qui eux se réapproprient le répertoire réunionnais, musique maloya. J'en profite pour dire aussi que le vendredi midi, on peut rencontrer le groupe En Pagaille sur le petit temps du Magic, et ils feront, on va dire, toute petite formation musicale en trio, hein, puisqu'ils sont 7 dans le groupe, donc avant le concert du soir pour donner un petit peu envie.
Alors on vient, on mange et on partage avec les musiciens, c'est la magie au Magic Mirror.
Ouais, c'est vraiment l'esprit du Magic, c'est qu'on, voilà, qu'on puisse se croiser, qu'on puisse se rencontrer, qu'entre midi et deux on puisse aller manger un morceau et puis écouter des choses, et puis que ça soit vraiment le point de rencontre du festival, voilà. Qui est bien sûr ouvert à tous.
Et la nuit finit avec Ken Diaz dans la danse garantie bretonne. Samedi, un concert gratuit à midi au Medium Band et du Big Band de Thierry Chaise. Et le soir, on décolle avec le premier étage d'une fusée Hulk, un gros moteur basse batterie et les sax de Guillaume Schmitt. Et pour être accueilli par la grande cosmique Ludivine Issembourg avec Antiloops, on la connaît bien ici.
Oui, effectivement. Alors, Ludivine, on la connaît bien parce qu'effectivement, elle est venue plusieurs fois hein, déjà sur le festival, flûtiste vraiment virtuose. Elle était venue avec un DJ, elle était venue aussi avec Antiloops, effectivement, une édition précédente qui remonte un peu. Et là, donc, elle est, c'est le concert de 21h. Donc, je disais, c'est vraiment... à mettre dans toutes les oreilles, hyper accessible, hyper groovy, hyper dansant, planant également, on l'a dit. Et voilà.
Et on va passer juste derrière, je vais voilà, commencer un extrait de son dernier album Supernova qu'elle va jouer avec Antiloops samedi soir au Magic Mirror. Manon Bess est toujours avec nous pour présenter le 18e festival du Bleu en hiver qui commence demain. Après Antiloops, samedi, il y a Daïda qui va vous porter toute la nuit dans une épopée musicale électrisante, donc pleine d'énergie. Et puis on est à dimanche c'est relax, mais pas tant, car déjà midi, un bal trad avec Dominique Meunier. Et Riz et Galet, et puis à 17h le 5 o'clock et une cup of tea pour se laisser aller avec l'hypnotique Polyphème, un assemblage qui fusionne un gamelan, un instrument de percussion indonésienne avec les rythmiques du Maghreb. Lundi c'est off, mardi Géraldine Laurent au théâtre de Tulle, à mon Manon Bess sur cette saxophoniste.
Oui, Géraldine Laurent, ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas accueillie sur le festival, donc Géraldine Laurent, super saxophoniste, qui vient effectivement avec Cooking, qu'on a appelé nous un jazz un peu aux petits oignons. Voilà, c'est quelqu'un qui est très virtuose, a gagné Victoire du Jazz avec cet album-là. Donc je dirais, voilà, une formation pour tous les grands amateurs de jazz.
Et qui est bien inspiré hard bop des années 60. Et puis mercredi 25 janvier, tout le monde va à Brive pour le trio François Rollin, qu'on écoutera en fin d'interview. Ça, c'est un jazz très métissé.
Beau concert, belle entrée en matière pour cette deuxième partie de festival.
Et c'est tout pour mercredi.
Le mercredi, on est un peu tranquille. On attaque avec uniquement ce concert-là.
Bon, on passe à jeudi alors.
Alors, le jeudi, on a une grande soirée le jeudi. Donc ça commence avec à 18h30 rapidement avec Aléris. Aléris, c'est un des partenariats qu'on a chaque année avec un organisme qui s'appelle Jazz Migration, qui soutient un peu la création contemporaine dans le jazz. Donc c'est un des groupes qu'on accueille dans ce cadre-là, le seul groupe dans ce cadre-là cette année, avec vraiment Juliette Meyer qui emmène cette formation avec des textes aussi qu'on n'entend pas forcément dans le jazz, hein. Ça je l'ai pas forcément dit, là ça vraiment ça chante, il y a des beaux textes, il y a du piano préparé, de la basse, de la batterie, et c'est effectivement voilà, un quatuor qui a une esthétique un peu inhabituelle, je dirais, pour le jazz, puisqu'on va retrouver moi je dirais une influence un peu presque on dit expérimentation un peu 70s, on s'est dit nous qu'il y avait quelque chose un peu là-dedans qu'on retrouvait, et un côté un peu punk aussi, hein. Ils ont cette esthétique un peu dark comme ça qui marche pas mal. Ensuite on passe à Concerto pour Soku, formation menée par Clément Janinet, super violoniste Clément Janinet, en duo avec Adama Sidibé qui joue du Soku. Donc le Soku c'est un petit violon africain, donc il va un peu à l'encontre des idées reçues de il n'y a pas de violon en Afrique. Si tout à fait, il y a du Soku, et c'est vraiment le Soku qui est la star de ce concerto pour Soku, hein, comme le nom l'indique bien, et donc ça va vraiment nous donner beaucoup envie, puisque à la fois ça donne un peu envie de bouger un petit peu aussi, et on retrouve quand même la patte de Clément Janinet qui l'orne aussi toujours un petit peu du côté des musiques contemporaines, puisqu'on va retrouver toujours des petites influences un peu des choses qui avec un peu de boucle, avec un peu un petit aspect Steve Reich comme ça, et en même temps voilà emmener qui voilà il va dans tout un tas de répertoires qui effectivement sont propres aux musiques maliennes notamment.
Et je vois que cette soirée de jeudi nous fait voyager sur les côtes du Beaufort avec DJ Saint-Omer Saredjedi, qui est un musicien sound designer turc qui vit entre l'Allemagne et la France, et c'est gratuit, toujours au Théâtre de Brive. Alors on va accélérer un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vous invite vraiment à aller voir la programmation du vendredi qui est très très riche. Donc vendredi chez Barbaro Quartet à 18h30 au Conservatoire de Brive et c'est gratuit. À 21h au Centre Culturel Avenue Jean Jaurès, Rhizotome qui devait venir l'an dernier et qui était déjà venu au festival il y a une dizaine d'années. C'est un duo sax-accordéon, Mathieu Metzger, Armel Doucet, et ils vont aussi chercher dans la musique trad et les danseries baroques, ça pulse très fort. Et le lendemain, samedi 28 janvier, Mathieu Metzger en solo à la médiathèque de Brive à 15h, saxophone et électronique pour un univers insolite et très baroque encore. Et puis, la suite, Manon Besse.
On se rapatrie au théâtre pour la deuxième, voilà, pour la soirée, hein. Donc à partir de 18h30, alors d'abord Afropolis, rapidement Afropolis, c'est chant avec Célène Saint-Aimé qui est aussi contrebassiste et tambour bélé qui est un tambour martinité par Boiris Red Anelaïde. Et ils font eux deux partie d'un ensemble plus large qu'on aura en deuxième partie de soirée qui s'appelle Insula. Gros ensemble emmené par un pianiste, Maher Borois, qui signe aussi les compositions. Et c'est un projet en hommage aussi à Frantz Fanon. Et il va y avoir tout un mélange, donc à la fois de textes, avec des textes parlés de Frantz Fanon. On va retrouver également aussi des musiques plutôt arabo-andalouses, des musiques un peu d'influence sud-américaine, donc un gros creuset pour une proposition vraiment, voilà, je pense, une belle clôture de festival, vraiment super, qu'on voit peu en France, parce qu'ils avaient une date à Paris, ils viennent après chez nous, donc on est vraiment ravis de les accueillir, c'est un peu l'événement de clôture, hein, celui-là. Et puis parce qu'on a toujours pas assez, une fois qu'on sort d'un celui-là, il y a même un petit DJ set et on peut boire un verre pour bien finir la soirée.
Pour retrouver nos esprits en attendant l'année prochaine, et puis le temps qu'on communique aux auditeuristes quelques infos, je vous propose en fond de commencer d'écouter un extrait du trio Rollin qui passera le mercredi 25 au Théâtre de Brive. Mais d'abord, quelques infos pratiques, il y a des concerts payants, mais il y en a aussi des gratuits.
Alors, il y a beaucoup de gratuits, c'est important de le dire. On est sur 23 concerts, 14 gratuits, donc c'est quand même beaucoup. On l'a fait exprès pour que les gens n'hésitent pas à venir. Quand vous avez les soirées composées, il y a donc notamment Magic Mirror ou au théâtre à Brive, il y a un concert payant, celui de 18h30 gratuit, celui de 23h gratuit également. On est sur une gamme de tarifs, après les tarifs réduits, j'ai envie de dire, c'est de manière assez générale, en fonction de l'âge, minima sociaux, etc.
Et puis il y a des abonnements.
Alors, ça vous fait 14€ le spectacle, ou quand vous êtes en extérieur, il est à même 12€ et 3 spectacles, et plus si vous souhaitez en prendre plus sur l'entièreté du festival. Donc c'est un peu le même principe qu'on a nous effectivement à l'empreinte. Ça fait 42€ pour 3 spectacles. Voilà.
C'est bien. Donc, pour tout ce qui est pratique, date, horaire, lieu, accès, navette, entretuit, les briefs, billetterie, etc., on retrouve tout ça sur le site du Bleu en hiver, toutattaché.fr, et sur la page Facebook du festival. Et puis, évidemment, il y a le numéro de téléphone de la billetterie, 05 55 22 15 22, 05 55 22 15 22. Encore un grand merci à toi, Manon, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette belle programmation.
Merci Ève.
Et puis on continue d'écouter ensemble le trio Rollin. Et dans quelques instants, nous poursuivons notre émission avec Thomas qui nous parlera du village de Ussac et de son parcours. Et puis nous parlerons aussi évidemment d'un événement majeur proposé par le Pays d'Art et d'Histoire. Mais pour l'heure, il est 13h passé de 32 minutes et c'est l'heure du journal régional.
Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Mercredi 18 janvier 2023, hier en fin d'après-midi, des secteurs de la Haute-Vienne avaient des difficultés pour joindre le 18 ou le 112. Un nouvel incident technique rendait la ligne téléphonique des pompiers indisponible. En cas d'urgence, les personnes peuvent toujours composer le 05 55 12 80 69, mais la situation est revenue à la normale depuis hier soir. Prudence sur les routes en Limousin et Périgord. Notre territoire a revêtu son manteau blanc. La neige pourrait encore tomber dans la journée. Une vigilance jaune neige-verglas est toujours en cours en Haute-Vienne, Dordogne et Corrèze. La Creuse est en vigilance orange. Des engins de neigement sont en action actuellement sur l'A20 et l'A89 notamment. Hervé Maillet, directeur adjoint exploitation de la DIR Centre-Ouest.
On est organisé effectivement avec des circuits dédiés. Un circuit fait à peu près 60 km de réseau. Donc ce qui fait qu'un engin de service hivernal va passer environ au même endroit toutes les deux heures. Donc sur des phénomènes important de neige, il est normal que les routes blanchissent pendant ces deux heures. Notre engagement, c'est la continuité d'intervention et la remise en viabilité dès que les événements et les précipitations sont terminés. Je rappelle que quand il neige abondamment, le seul acte, c'est de racler, c'est de pousser la neige. Et c'est simplement lorsque les précipitations sont terminées qu'on peut véritablement remettre en viabilité le réseau.
Pour votre sécurité et celle des agents des routes, rappelons qu'il est interdit de doubler un véhicule de déneigement en action. Gardez donc vos distances de sécurité. Une adolescente a été retrouvée vers 11h30 hier matin sur la commune de Neuvic. Elle était en état d'hypothermie. Un avis de recherche était lancé depuis hier. Partie de chez elle, elle ne s'était pas rendu au lycée. Les gendarmes de Haute-Corrèze, une équipe cynophile du SEL et l'hélicoptère du détachement aérien d'Aigleton ont fini par retrouver la jeune fille de 15 ans au bord du lac de la Triozoun à Neuvic. Un homme d'une trentaine d'années est mort percuté par un train hier en Gironde. Le trafic de plusieurs lignes a été perturbé, dont celle de Bordeaux-Périgueux. Une enquête est ouverte. Des élus, des acteurs économiques des territoires dépendants de la ligne POLT étaient réunis à Châteauroux hier. Ils demandent à l'État, à la SNCF et à Réseau Ferré de France, je cite, des mesures immédiates, réalistes et pérennes pour mettre fin au grand déclassement de nos territoires. De nouvelles actions sont prévues en Corrèze, puis éventuellement à Paris, en gare d'Austerlitz, voire même devant le palais de l'Élysée. Une partie des salariés de Schneider Electric ont répondu à l'appel national. Une mobilisation hier pour une augmentation des salaires, mais aussi pour témoigner de leurs inquiétudes quant au possible rachat d'une partie de la société. L'entreprise taïwanaise Yageo pourrait racheter une branche de Schneider Electric dont le site de Limoges fait partie. Les 160 salariés limougeaux craignent une délocalisation de cette activité vers l'Asie. Arthur Bonneval rejoint les effectifs du CA Brive. L'équipe briviste vient d'annoncer hier son arrivée en provenance du stade toulousain. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison pour remplacer l'ailier Joris Jurand. Le trois-quarts polyvalent de 25 ans va renforcer l'attaque briviste. Il débute ce matin les entraînements au stadium. Et puis le centre aquarécréatif de Tulle devrait pouvoir rouvrir dans la journée. L'équipement a dû être évacué et fermé hier après-midi suite à la découverte d'une importante fuite d'eau. La panne se situe dans un local technique. Pour intervenir, une équipe de dépannage a dû fermer la canalisation qui alimente les douches et les sanitaires. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prudence sur les routes, certains secteurs sont encore très glissants. Très belle journée à tous.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre nouveau site internet bramfm.com. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin suivie de la météo à 13h55. Pour l'heure, nous poursuivons notre émission avec toi, Thomas. Rebonjour.
Rebonjour Ève et rebonjour aux auditeurs.
Et aujourd'hui, tu nous parles du bourg du Sac. Mais pourquoi tant d'intérêt pour ce bourg ?
Eh bien, parce que j'étais venu déjà en décembre et je vous avais parlé de la fête des Lumières, les Allumés du Sac, un gros événement qui est organisé par le Pays d'Arrêt d'Histoire, tu l'as évoqué. Donc, je vous avais expliqué un peu ce que c'était, mais eh bien, il faut savoir que pour cette fête des Lumières, on a édité ce qu'on appelle un parcours Ussac, à savoir un livret de découverte du patrimoine. Donc, je me suis dit, on va faire de la publicité, mais on va surtout parler patrimoine.
Et c'est vrai qu'au final, tu nous as peu parlé du patrimoine la dernière fois. L'occasion, donc aujourd'hui pour toi, de te rattraper.
Exactement. Et on va commencer par une brève histoire du Sac. Alors, vous savez, j'aime bien moi faire un petit peu état des lieux de ce qui s'est passé au fil des siècles et au fil des âges. Rappelons déjà que Ussac, hein, c'est une commune qui est située entre Brive et Donzenac, au nord de Brive, le long de l'Avin. Les premières mentions écrites datent de l'époque de Charlemagne, à peu près aux alentours du Xe siècle. Et dès le Moyen-Âge, la proximité avec les axes antiques de Paris et Toulouse et d'Angoulême à Brive attirent plusieurs abbayes importantes, dont celles d'Uzerche et de Tulle, ce qui n'est pas rien. Plus tard, notamment à l'époque moderne, les terres du Sac entrent également en possession de familles locales importantes. Certains vont reconnaître, quand je vais vous parler de la famille des Malmort, la famille des Lastéry ou encore les vicomtes de Turenne, avec le fameux château, qui sont également de la famille des papes d'Avignon. Encore une fois, c'est pas rien. Et ce bourg est un bourg peuplé de marchands, de voituriers, également de vignerons, une grosse activité vigneronne. Et tout ça va faire qu'il va y avoir la construction de plusieurs châteaux qui montrent la richesse des Ussacois.
Alors là, quand tu nous en parles comme ça, on a presque l'impression que tu évoques une capitale. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un événement marquant partout en France, la Révolution. À la Révolution, les châteaux, les prieurés pillée, dévastée, aujourd'hui à l'état de ruine. La ville qui était ce qu'on appelait le jardin du bas Limousin, à savoir qu'elle fournissait Brive en primeur. Hein. Les primeurs sont ces fruits et légumes qui poussent assez tôt dans l'année et qui permettaient d'alimenter les nombreux marchés, notamment sur la capitale briviste, la capitale corrézienne, pardon. Attention, je ne me trompe pas parce que Tulle, il y a quelques animosités. Donc surtout suite à la fameuse crise du phylloxéra que j'avais pu évoquer. Et la ville, eh bien, va finalement stagner, elle va se développer, mais elle va stagner pour connaître une population d'entre 1800 et 2000 habitants pendant le 19e siècle. Et c'est surtout à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, avec notamment l'arrivée de l'autoroute, et plutôt des autoroutes, parce que Ussac est au croisement entre l'A20 et la 89, également le développement de Brive avec la proximité. Tout cela fait qu'aujourd'hui, eh bien, Ussac, vous avez notamment une population qui s'accroît pour frôler les 4500 habitants, ce qu'elle ne devrait pas tarder à dépasser.
Et justement, aujourd'hui, quel patrimoine d'intérêt nous est parvenu ?
Bien évidemment, la fameuse église, on remet l'église au centre du village. Eh bien, Ussac ne démord pas à cette expression. Le bourg est construit autour de son église dédiée à Saint-Julien, avec pour les parties les plus anciennes de cet édifice remontant au XIIe siècle. Elle a connu de nombreuses transformations, notamment suite aux dégâts qui ont été causés par les guerres de religion, qui ont été assez dévastatrices sur le territoire. Et dans les choses que l'on peut évoquer, il y a notamment ce clocher qui a été détruit en 1902 lors d'un orage. La foudre est tombée dessus. On a des images anciennes qui nous rappellent la structure originelle où il y avait eh bien, un clocheton qui surmontait ce clocher.
Et si on s'éloigne un peu des édifices religieux, Thomas, que peut-on découvrir d'intéressant ?
J'avoue que le bourg, alors on commence à bien le connaître, on est au Pays d'Arrêt d'Histoire à force de travailler pour cette fête des Lumières, et il y a plein de choses, plein de petits éléments dans ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire, le petit patrimoine. Vous avez notamment les puits, il y a un parcours sur les puits du Sac pour vous dire à quel point ils sont nombreux dans le bourg. Ils ont été utilisés jusqu'en 1969 avec l'arrivée de l'eau courante, qui est finalement, on peut le signaler, assez tardive, car la présence de ces puits, notamment proche des maisons, rendait eh bien, la présence de l'eau courante assez moins urgente. Ce sont des puits plutôt profonds, notamment pour traverser les grès jusqu'aux nappes souterraines qui permettent de les alimenter. Et ils ont eh bien, fait l'objet d'une restauration, une campagne de restauration entre 1997 et 1999 par le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement de la Corrèze, entendez le CAUE et la mairie. Ils ont également la particularité d'avoir une grande diversité architecturale. Je pense comme ça au puits qu'on dit pain de sucre. Et oui, ça paraît étonnant, mais il y a un puits qu'on dit pain de sucre ou poivrière, ou encore un puits encastré dans le mur d'une grange étable. Et je vois un des anciens encore du SAC qui me disait que ce puits avait la réputation d'avoir une eau un petit peu avec un certain goût. Hein. Je vous laisse deviner pourquoi. On a d'autres éléments, je citerai à la volée la fontaine Saint-Jean, avec ses eaux miraculeuses qui, soi-disant, selon la légende, guérissaient les enfants souffrant de vers ou de convulsions. Le séchoir à Châtaigne, ou séchadour, comme on dit dans la langue locale, qui est un petit bâtiment en pierre, avec au rez-de-chaussée un endroit où l'on faisait de gros feux avec des souches, dont la chaleur et la fumée permettaient de faire sécher des châtaignes qui étaient entassées au-dessus d'un plancher à jouer et qui étaient accessibles, lui, par une porte extérieure. Il faut savoir que ces séchadours, eh bien, il y avait des veillées sur plusieurs jours car cela prenait énormément de temps pour faire sécher ces châtaignes qui permettaient eh bien, d'être une des bases de l'alimentation en Corrèze et qui a notamment aidé au moment de certaines disettes, voire famines. Quand vous passez, vous avez également par exemple deux maisons qui sont quasiment accolées. Vous avez un tout petit espace. Eh bien, entre ces deux maisons, on va voir des latrines. Hein, tout simplement les toilettes sèches qui étaient utilisées à l'époque médiévale. Celle-ci, on ne sait pas de quelle époque elle date, mais c'est une particularité. On va voir également des épis de faîtage. Alors les épis de faîtage, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameuses structures, sculptures en céramique émaillée qui surplombe les toitures et qui était une affirmation de la position sociale du propriétaire, et encore plein d'autres éléments que je ne pourrais pas citer malheureusement pour faute de temps, mais qui sont à découvrir sur place.
Et tu parlais au début de ta chronique du développement récent du bourg. Existe-t-il un patrimoine que l'on pourrait qualifier de contemporain ?
On pourrait signaler les écoles qui ont une histoire assez ancienne qui remonte dès le 19e siècle, à savoir que eh bien, à cette époque, hein, certains le savent, qui l'ont même expérimenté, les écoles étaient non mixtes. Elles étaient installées dans des maisons qui étaient louées par la mairie, à la fois dans le centre-bourg, mais également dans d'autres villages. Je citerai Lintillac et Saint-Antoine-les-Plantades, qui sont deux villages qui jouxtent le bourg et qui avaient ces écoles-là. Au début du 20e siècle, il y a la construction de la mairie actuelle, qui était alors la mairie-école, pour les garçons, je précise. Et l'école primaire actuelle a été construite en 2002-2003. Mais surtout, ce qui est, on va dire, vraiment intéressant au niveau architectural, au niveau patrimoine contemporain, c'est l'école maternelle qui est inaugurée en 2013. Elle est située en contrebas au sud du bourg avec une architecture complètement contemporaine qui répond aux enjeux environnementaux. Vous avez un bâtiment qui épouse à la fois la forme de la pente avec une forme d'arrondi qui est exposée plein sud, une toiture qui est à la fois végétalisée avec quelques ajouts de zinc, d'ardoise qui permet de façonner le paysage depuis le bourg. Les salles à l'intérieur, on a l'occasion d'y travailler avec les élèves pour la fête des Lumières, mais elles sont très lumineuses avec notamment une présence assez importante de la végétalisation même jusque dans les couloirs. Et vous avez aujourd'hui plus de 300 élèves à USAC, donc qui nécessitait bien justement la construction de ces écoles.
Et sans transition, il me semble que le train Brive-Limoges passe par USAC, mais il ne s'arrête pas.
Et pourtant, il existe encore une gare qui a fonctionné jusqu'au début des années 1990. Alors, sa fermeture, tout simplement, elle a été causée par la faiblesse de l'activité qui est notamment liée à la proximité de Brive. Les gens préféraient avoir le développement de Brive pour pouvoir eh bien, sortir. Mais je citerai un événement marquant. Il s'agit d'un fait de résistance majeure durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est là qu'il faut bien écouter pour ceux qui sont passionnés de ces faits divers. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il faut savoir que le 8 août 1944, un train avec 16 canons, une centaine de tonnes de ravitaillement et de nombreux ouvriers de la manufacture de Tulle est en gare de Brive. Alors, René Ladrière, qui est cheminot et surtout résistant aux commandes du 19e bataillon franc-tireur et partisan français, décide d'organiser le déplacement de ce fameux train dans un lieu un petit peu plus tranquille, à savoir la gare du Sac, une des premières en partant de Brive. La première même en arrivant et en montant vers Limoges. Les maquisards font alors sauter les voies, une fois que le train est passé, et installent des barrages sur toutes les routes qui croisent la ligne. 5h du matin, arrivée du train en gare du Sac. 20 camions, 500 à 600 hommes déchargent le convoi en seulement 3 heures pour que tout soit envoyé en Dordogne. C'est déjà une prouesse. Et bien, il faut en plus savoir que ce fait de guerre s'est déroulé sans coup de feu et sans victime. C'est extraordinaire. Et en plus, vous pouvez avoir une stèle aujourd'hui qui rappelle cet événement et qui est posée juste devant l'emplacement de la gare parce que le bâtiment existe encore.
quelle anecdote incroyable. En tout cas, c'est une vraie prouesse en temps de guerre de réussir à faire une telle action sans qu'il y ait de victimes et que tout soit réalisé comme ça en si peu de temps. Pour finir cette chronique sur le parcours du sac, peux-tu nous parler évidemment de cette fête qui se déroule ce week-end et les allumés du sac?
Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'espère qu'ils sont de moins en moins nombreux. Donc les allumés du sac, c'est une fête des Lumières participatives, c'est la deuxième édition. On en avait déjà réalisé une à Juillac en février 2022 qui s'est très bien déroulée, on avait eu 1500 personnes. Celle-ci se déroule vendredi et samedi, donc les 20 et 21 janvier à partir de 19h. L'entrée est libre et gratuite, c'est-à-dire que vous arrivez à 19h ou après. Il y aura de toute manière tout le temps des temps d'animation, des temps d'événements, il y a de la déambulation. Le livret parcours du sac, eh bien, d'où je tire une grande partie des informations que je vous ai données aujourd'hui, sera distribué gratuitement. Où vous aurez bien évidemment plus d'informations encore à découvrir. La date, elle est confirmée. Donc la météo, on considère qu'elle est bonne. L'événement se tiendra, donc n'hésitez pas à vraiment venir. Par contre, il prévoit un petit peu de froid. Tout à l'heure, le journal le disait, le froid arrive. Donc, habillez-vous chaudement. Et surtout, il y a quelque chose que nous, on veut. C'est que si vous voulez venir avec l'envie que nous, on a de venir allumer, ben, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que vous prenez, on vient de ranger les décos de Noël, ben, vous ressortez un petit peu quelques décorations et vous venez vous les coller, ces guirlandes LED colorées. Enfin, c'est vraiment la guise de l'imaginaire. Les enfants, généralement, sont très, très forts pour pouvoir découvrir ces choses-là par rapport à ça. Donc vous venez, vous déambulez dans le bourg, vous allez suivre la parade lumineuse avec les monstres géants qui sont construits avec les habitants, avec les écoles. C'est vraiment une découverte à la fois poétique et onirique du bourg. Il y a de la restauration sur place, donc vous pouvez même vous poser et découvrir à votre rythme les installations. Quoi dire dans le plus, à part le fait que nous, on est en train de le préparer et déjà, on prend un pied énorme à le faire. Donc, à mon avis, les soirs de la fête, ça sera encore plus magnifique.
On invite donc les auditeuristes à venir nombreux ce week-end à votre événement Les Allumés du Sac. Merci infiniment Thomas Jacquemont d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Je rappelle que tu fais partie je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'employé, j'aime pas ce mot, je trouve
cheville
ça nul.
Ouvrière.
Cheville ouvrière du Pays d'Art et d'Histoire Vézère-Ardoise. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se quitter avec un titre approprié, White Light, des Velvet Underground. Merci infiniment d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Watch that stuff to yourself in. Watch that side, no one's not gonna be dead and right. Bad foxy mama walking, walking down the street. Come outside, your head gonna make a dead ain't on the street. Run, do it.
Les Velvet Underground, bien sûr, avec le titre White Light. Dans quelques instants, Isabelle viendra nous parler de la météo. Pour l'heure, il est 13h50 et c'est l'heure de la chronique en Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Kaolin FM redevient radio à lire du 19 au 21 janvier avec la 7e édition des Nuits de la Lecture. La radio s'associe à nouveau à une quinzaine d'associations de Saint-Junien pour coproduire 27 heures de lecture et de chansons durant ces trois nuits de 20h à 5h du matin. Des Nuits de la Lecture qui sont le théâtre de nombreux rendez-vous dans Saint-Junien, sur le terrain, de la Halle au Grain à la médiathèque en passant par l'Étoile Bleue. Cela fait désormais 4 ans que la manifestation accompagne les lecteurs en panne dans la cité Gantière, coordonnée par l'association Le Caisse de Lire. Sa présidente, Isabelle Huc.
Ça fait la quatrième année que je fais ce travail. C'est la première année où on a autant de partenaires et je pense que les deux années Covid précédentes nous ont donné envie d'être de plus en plus nombreux et de faire un événement de nouveau aussi bien, aussi beau que le tout premier il y a 4 ans.
On évoquera d'ailleurs ces partenaires dans quelques instants. C'est un peu un retour sur le terrain après une première année, une première expérience qui s'était concrétisée. Deux années de Covid vous ont laissé loin des lecteurs, du public.
Oui et non. Oui, physiquement, et non, entre autres grâce à Kaolin FM, parce que c'est vrai que de pouvoir mettre en avant des lectures à voix haute à la radio, ça a permis à nombre d'auteurs et de bénévoles des différentes associations de pouvoir quand même être présents dans les oreilles des auditeurs et de pouvoir s'exercer à la lecture, au partage de la lecture. Et ça, ça a été précieux pour nous ces deux dernières années, et on est absolument ravis de pouvoir continuer cette expérience avec vous cette année.
Les Amis des Mots, le collectif Chant Libre en compagnie d'Alix, l'écho de Nagas, Kaolin, les passeurs d'histoire, les plumes limousines, lire et faire lire, page libre du Limousin, 1000 pages, Subculture, le Cinébourse, le service municipal de Saint-Junien, l'occasion de lire de nombreux acteurs.
Oui, on a des nouveaux partenaires aussi, puisqu'on a rencontré Yann Robin cette année, qui est un artiste peintre qui va pouvoir exposer à l'Étoile Bleue. 1000 pages, alors ça c'est super chouette, parce que le lieu c'est une librairie associative qui permet aussi la réinsertion, et leur lieu a superbement évolué, c'est une mine de livres d'occasion, et cette année ils nous ont rejoint, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors timidement au départ, mais je pense que l'année prochaine ça sera encore mieux.
Plusieurs lieux cette année durant ces 3 jours.
Et oui, puisqu'on a, bon, j'ai pas cité la Halle au Grain, mais il va y avoir aussi des choses à la Halle au Grain, puisqu'en ce moment il y a une exposition sur les animaux fantastiques. Donc il y aura un grand jeu visite le vendredi 20 sur les animaux, même pas peur, et puis des lectures aussi. Il y aura aussi en cœur de ville, puisqu'il y aura des balades givrées, des balades où les gens, voilà, comptaient. Il y a une déambulation aussi par la compagnie d'Alix.
La ludothèque, la Halle au Grain, de nombreuses animations dans les écoles dans la semaine, et puis le point d'orgue de ces nuits de lecture,
oui.
c'est l'Étoile Bleue.
Oui, ça va être superbe.
Avec une nuit blanche.
Oui, une nuit blanche, on verra après si les gens suivent ou pas. Avec des rencontres d'auteurs. Déjà, le conteur Pierre Deschamps, qui est bien connu dans la région, sera à 19h30. À 20h, un concert de Arthuan de Lieré. Une soirée barrée avec des rencontres d'auteurs avec le public, entre autres l'autrice Maude Maïras, et puis ensuite Cyril Héry. Et là, vous pouvez rencontrer les auteurs, et en même temps, il y aura un débat. Les passeurs d'histoire, nous aurons un peu plus tard dans la nuit, vers minuit, Camille qui nous emmènera dans des caves voûtées autour de nouvelles, je crois, d'Edgar Poe. Des lectures style le livre dont vous êtes le héros.
Et tout cela nous emmènera jusqu'à 3h du matin.
Oui, avec la projection d'un film d'horreur aussi, vers 1h du matin. Et puis, oui, jusqu'à 3h au moins. Après, voir plus si affinité. Il y aura aussi des lectures au pavillon du livre qui est dans le même lieu. Et puis, des lectures, des contes dans une cave aussi, à peu près en même temps.
L'objectif de ces 3 jours à Saint-Junien et du collectif, c'est avant tout de se faire plaisir autour des mots. C'est également faire la promotion de la lecture.
Promouvoir la lecture, aller vers les gens qui ne peuvent pas non plus avoir accès à la lecture, d'où aussi des lectures à voix haute à Kaolin FM. On veut vraiment pouvoir toucher tout le monde, donner envie de lire, c'est une chose, mais donner aussi envie d'écouter des livres, d'écouter de la lecture, d'être dans un endroit plutôt confortable, que ce soit chez soi avec le livre qu'on aura eu le samedi matin, ou près de sa cheminée en écoutant la radio, ou en venant le samedi par exemple à l'Étoile Bleue. C'est plus que de la lecture, c'est aussi une ambiance et une envie d'aller rencontrer le livre.
Les Nuits de la Lecture sont à vivre du 19 au 22 janvier à Saint-Junien et dans toute la France. Cette année, le thème est la peur.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure... Bonjour Miss Météo.
Bonjour. C'est vrai que le morceau va bien avec le temps. Hein. Si tu peux pas mieux trouver, ça sent la Jamaïque, hein, la Corrèze, là, aujourd'hui.
Ah, oh, bah tout à fait, mais j'aurais pas mieux dit, ça sent la Jamaïque, la Corrèze.
Moi, avec
aujourd'hui.
Mes 10 cm de neige ce matin, c'est vrai que c'était vraiment Kingston Town, hein, vraiment. Hein.
Est-ce qu'il neige en Jamaïque, Miss Météo?
Oh, je pense pas. Ah, non, ouais. Non, je ne crois pas. Non, non, je crois pas dans les Caraïbes, ça m'étonnerait fort. Hein. Non, non. Après, s'il y a des gens qui ont vu la neige en Jamaïque, je veux bien qu'ils nous appellent, ça pourrait faire l'objet d'un beau reportage.
Oh oui. Ouais, d'une chronique insolite. Après Michel Piccoli dans le studio voilà, de la
FM, la neige en Jamaïque. Ouais. Ils ont sûrement trop fumé s'ils en ont vu là-bas. Hein. En tout cas, moi, je vais vous parler de la météo de demain. Et c'est sous un ciel bien nuageux que nous allons nous éveiller demain, jeudi 19 janvier. Cet épisode neigeux semblerait être derrière nous, déjà même, un peu partout. Même si quand même les températures seront encore négatives demain matin, elles se situeront de moins 2 à 0 degrés du nord au sud du département. L'après-midi sera plus clémente, le ciel se dégagera un peu pour devenir voilé, c'est déjà pas mal, sur toute la partie ouest de la Corrèze, tandis que la partie est, elle, restera bien chargée sous les nuages. Les températures pour l'après-midi n'atteindront pas plus de 4 degrés du côté de chez les Coujoux, là-bas, à Brive-la-Gaillarde, 3 degrés à Beaulieu, Argentat et Tulle, 2 degrés à Userche, 0 à Égletons, Trégnac et Ussel, et enfin moins 1 à Sornac, dans le grand nord de la Corrèze. Voilà. Et oui, oui, oui. Toi, t'aimes bien la neige, non ?
Oui, j'adore.
C'est la différence entre nous.
Oui, et puis moi j'habite dans le sud, donc il ne neige pas.
Et voilà.
Voilà, donc voilà. J'ai bien choisi mon coin. Merci
ça
beaucoup,
fait,
Miss
ça fait
Météo.
Ça partie de nos différences. Demain ?
À demain, oui.
Hein ? Alors je ferai grève, mais en même temps, je ne ferai pas complètement grève.
Voilà, c'est ça la...
Voilà. Je ferai grève de chez moi, donc je fais grève officiellement, mais j'enverrai quelques sons quand même. Hein, parce que,
vous aurez la météo.
On donne ça. Tout le temps des nouvelles, nous. Hein.
Bien sûr, on est toujours au... On est comme ça. On
ouais,
est connecté.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Merci beaucoup, Miss
Des
Météo.
Des bisous.
À demain.
Ciao.
Un grand merci à Thierry, à Manon Bess, à Philippe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Thomas Jacquemont et à Mathéo. Merci à Isabelle et merci à vous, auditeurices. Pour retrouver cette émission et toutes les autres, vous les retrouverez sur le site de Bram FM dans l'onglet « Vous êtes ici ». Et vous pouvez aussi retrouver toutes les autres émissions de Bram FM sur le site. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous.